Deuxième partie, 27 mars, journée vide, puisque Mademoiselle Penelosa doit aller avec Wilson et sa femme chez les Sultan. J'ai commencé le magnétisme animal de Binet Ferré. Quelle étrange et profonde énigme que celle-là! Des résultats, des résultats, des résultats, mais quant à la cause qui les a provoqués, mystère! C'est un aliment savoureux pour l'imagination, mais contre lequel je dois me tenir en garde. Laissons de côté toutes les hypothèses et les déductions, et ne retenons que les faits dûment corroborés. Je sais que le sommeil hypnotique existe réellement, je sais que la suggestion magnétique existe réellement, je sais que je suis moi-même capable de subir l'influence de cette force. Voilà ma situation telle qu'elle est actuellement. Je me suis muni d'un grand carnet de notes, tout neuf, qui sera en entier consacré au relevé des détails scientifiques. Longue conversation dans la soirée avec Agatha et Mademoiselle Madame Marden à propos de notre mariage. Nous sommes d'avis que le mieux serait de fixer la date de la cérémonie au premier jour de vacances d'été. À quoi bon tarder davantage ? Il me semble que c'est même trop de ces quelques mois qu'il nous faudra attendre encore. Néanmoins, comme le fait remarquer avec juste raison Madame Marden, il reste bien des choses à préparer. 28 mars. Hypnotisé une seconde fois par Mademoiselle Penelosa. Expérience très semblable à la précédente, sauf que l'insensibilité s'est produite plus vite. Voir carnet A pour température de la chambre, pression barométrique, pouls et respiration relevés par le professeur Wilson. 29 mars, hypnotisé de nouveau, détail dans carnet A. 30 mars, dimanche, donc journée vide. Je m'irrite chaque fois qu'une chose ou une autre vient interrompre le cours de nos expériences. Jusqu'à présent, elle se borne à embrasser les particularités physiques qui caractérisent l'insensibilité suivant qu'elle est légère, complète ou extrême. Après, nous espérons passer de là au phénomène de la suggestion et de la lucidité. Certains professeurs ont déjà démontré ces choses-là en opérant sur des femmes à Nancy et à la Salpêtrière. Ce sera plus convaincant de voir une femme le démontrer sur un professeur, avec un second professeur comme témoin. Et dire que ce sera moi le sujet, moi le sceptique, le matérialiste. J'aurais du moins prouvé par là que je place mon amour pour la science au-dessus de mes préjugés personnels. Se rétracter est le plus grand sacrifice que nous impose la vérité. Mon voisin d'en dessous, Charles Sadler, le jeune et élégant démonstrateur d'anatomie, est monté chez moi ce soir pour me rendre un volume des archives de Virchow que je lui avais prêté. Je l'appelle jeune, mais en réalité, il a un an de plus que moi. « Il paraît, Gibrois, me dit-il, que Mademoiselle Penelosa se livre à des expériences sur vous. Eh bien ?» poursuivit-il lorsque je lui déclarai que c'était exact. « À votre place, moi, je resterai là. Vous allez me trouver bien impertinent, sans doute, mais il n'est pas moins vrai que je considère comme un devoir de vous conseiller de cesser vos relations avec elle. » Naturellement, je lui demandai pourquoi. « Ma situation est telle que je ne puis pas m'expliquer avec autant de liberté que je voudrais, me dit-il. « Mademoiselle Penelosa est votre amie et vous êtes le mien, de sorte que je me trouve dans une position très délicate. Je me bornerai donc à vous avertir d'une chose, c'est que je me suis moi-même soumis avant vous aux expériences de cette personne et que j'en ai gardé une impression fort désagréable. » Comme il devait bien s'y attendre, je ne me contentais pas d'une aussi mince explication. Mais c'est en vain que j'essayais de lui arracher les détails plus précis. Se peut-il qu'il soit jaloux que je l'ai remplacé? Ou bien serait-il de ces savants qui se froissent comme si on leur avait fait une injure personnelle dès qu'on leur oppose des faits contraires à leur opinion préconçue? Il ne peut pas prétendre sérieusement me faire renoncer à une série d'expériences dont j'attends de si précieux résultats sous le seul prétexte qu'il a je ne sais quoi vague grief contre Mademoiselle Penelosa. Il m'a eu l'air vexé de la désinvolture avec laquelle je traitais ces sombres avertissements, et nous nous sommes quittés avec un peu de froideur. 31 mars. Hypnotisé par Mademoiselle P. 1er avril. Hypnotisé par Mademoiselle P. Note dans le carnet A. 2 avril. Hypnotisé par Mademoiselle P. Tracé sphygmographiquement pris par le professeur Wilson. 3 avril. Il se peut que ces séances répétées de magnétisme fatiguent un peu l'organisme. Agatha m'assure que j'ai maigri et que mes yeux sont plus cernés que d'habitude. Je me sens en proie à une irritabilité nerveuse que je n'avais jamais remarquée chez moi auparavant. Le moindre bruit, par exemple, me fait tressaillir et quand un étudiant me répond « quelle crânerie », cela me fâche au lieu de m'amuser. Agatha insiste pour que je m'arrête, mais je lui réponds que toutes les études suivies, quelles qu'elles soient, sont fatigantes et que l'on ne peut arriver à aucun résultat sans en payer le prix. Quand elle verra la sensation que ne manquera pas de produire le mémoire que je veux préparer sur les rapports entre l'esprit et la matière, elle comprendra que cela compense largement la peine que je me donne. Il se peut fort bien que cela me fasse gagner mon FRS, membre de la Société Royale. Hypnotisé de nouveau ce soir. L'effet se produit plus rapidement à présent et les visions subjectives sont marquées. Je tiens des notes détaillées sur chaque séance. Wilson s'en va passer 8 ou 10 jours à Londres, mais nous n'interrompons pas pour cela nos expériences dont la valeur dépend autant de mes sensations à moi que de ses observations à lui. 4 avril. Il faut que je me tienne sérieusement sur mes gardes. Il est survenu dans nos expériences une complication sur laquelle je n'avais pas compté. Dans mon ardeur à me procurer la documentation scientifique qui m'est nécessaire, j'ai eu la sottise de rester aveugle aux rapports psychologiques qui sont établis entre Mademoiselle Penelosa et moi. Je peux écrire ici ce que je ne confierais à personne. La malheureuse me fait l'effet de s'être pris d'un grand attachement pour moi. Cet aveu, je ne le ferais pas même à moi et entre les pages de mon journal intime, si la chose était arrivée à un point tel qu'il est impossible de l'ignorer. Depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, j'avais déjà remarqué certains indices auxquels je n'avais pas cru devoir attacher d'importance. C'était son enthousiasme lorsque j'arrive, son abattement lorsque je m'en vais, son désir de me voir plus fréquemment, l'expression de ses yeux et le ton de sa voix. J'ai cherché d'abord à me persuader que tout cela ne signifiait rien, et qu'il fallait simplement imputer ses particularités à l'exubérance de son caractère créole. Mais hier soir, en me réveillant de mon sommeil hypnotique, je lui ai tendu la main d'un geste inconscient et involontaire, et j'ai serré la sienne. Et quand j'ai repris tout à fait connaissance, nous étions assis en face l'un de l'autre, les doigts enlacés, et elle me regardait avec un sourire plein d'expectative. Et ce qu'il y a d'horrible, c'est que j'étais tenté de lui adresser les paroles qu'elle attendait de moi. Quel misérable hypocrite j'aurais été! Comme je me serais méprisé aujourd'hui si je n'avais pas su résister à l'impulsion de cet instant-là. Mais, Dieu merci, j'ai eu suffisamment d'énergie pour me lever d'un bond et m'enfuir aussitôt. J'ai été malhonnête, je le crains, mais je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas me fier à moi-même une seconde de plus. Moi, un galant homme, un homme d'honneur, fiancé à une jeune fille des plus charmantes, dire que dans un moment de passion irraisonnée, j'ai failli professer de l'amour pour cette femme que je connais à peine, qui est beaucoup plus âgée que moi et par-dessus le marché infirme. Mais c'est monstrueux, c'est odieux, et pourtant, l'impulsion était si forte que si j'étais seulement resté une minute de plus en sa présence, je me serais compromis. À quoi faut-il attribuer cela? Je suis chargé d'enseigner aux autres les fonctions de notre organisme, mais au fond, qu'est-ce que j'en connais moi-même? Est-ce le déclenchement de quelque ressort secret de ma nature qui s'est subitement produit? Est-ce le réveil brusque d'un instinct brutal et primitif? Je serais presque enclin à croire aux histoires d'obsession, de hantise, de mauvais esprit, tant le sentiment que j'éprouvais était irrésistible. Cet incident me met décidément en très fâcheuse posture. D'un côté, il m'en coûterait beaucoup de renoncer à des expériences que j'ai déjà poussées si loin et qui promettent les plus brillants résultats. Mais d'un autre côté, si cette malheureuse femme s'est prise de passion pour moi, mais sur moi-même à présent, je dois commettre quelques grossières erreurs. Elle a son âge avec son infirmité alors donc. Mais non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle savait que le lien qui m'unissait déjà à Agatha, elle ne pouvait s'illusionner en aucune matière sur ma basse situation. Si elle m'a souri, c'est peut-être que cela l'a amusée de voir que, tout étourdi encore de la léthargie dont je sortais, je lui prenais la main sans m'en apercevoir. C'est précisément parce que l'influence magnétique persistait en moi que je l'ai interprétée de cette façon et que je lui ai cédé avec une rapidité si bestiale. Je voudrais pouvoir acquérir la certitude qu'il en a été réellement ainsi. Somme toute, le parti le plus sage est probablement de remettre la suite de nos expériences au moment où Wilson reviendra. J'ai donc écrit un mot à Mademoiselle Pénélossard, sans faire aucune allusion à ce qui s'est passé hier soir, mais en lui disant qu'un travail pressé m'obligeait à interrompre nos séances pendant quelques jours. Elle m'a répondu d'une manière un peu cérémonieuse pour m'informer que dans le cas où je viendrais à changer d'avis, je la trouverais chez elle à l'heure habituelle. 10 heures du soir. En vérité, quel homme de paille je fais! Depuis quelque temps, j'apprends à me mieux connaître, et à mesure que je me connais davantage, je perds de plus en plus de mon estime pour moi-même. Non, c'est inadmissible, je n'ai pas toujours été aussi faible que cela. À 4 heures, j'aurais souri avec dédain si quelqu'un était venu me dire que j'irais ce soir chez Mademoiselle Penelosa. Et malgré cela, à 8 heures, j'étais à la porte de Wilson comme de coutume. Je ne sais pas comment cela s'est fait. La force de l'habitude, comme il y a la passion de l'opium. Et je suis victime de cette passion-là. Toujours est-il que, pendant que j'étais en train d'écrire dans mon cabinet, je suis devenu de plus en plus agité. Je m'impatientais, je m'énervais, je n'arrivais pas à concentrer mon attention sur ce que je faisais, et puis finalement, presque sans avoir eu le temps de m'en rendre compte, j'ai saisi mon chapeau et j'ai couru à mon rendez-vous habituel. Notre soirée fut des plus intéressantes. Madame Wilson est restée constamment avec nous, ce qui eut l'heureux effet d'obvier à la gêne que l'un de nous deux au moins n'aurait pas manqué autrement de ressentir. Mademoiselle Pénélossa se montra en tout point telle que d'ordinaire et ne témoigna aucune surprise de me voir en dépit de ce que je lui avais écrit. Rien dans son attitude ne m'a permis de supposer que l'incident d'hier lui avait laissé une impression quelconque. Aussi, j'incline à croire que je me l'étais très exagéré. 6 avril, dans la soirée. Non, je ne me l'étais pas exagéré. Il est inutile que je cherche à me dissimuler davantage que cette femme s'est prise de passion pour moi. C'est monstrueux, mais c'est ainsi. Ce soir encore, en sortant de mon sommeil hypnotique, j'ai constaté que j'avais ma main dans la sienne. Et j'ai éprouvé, pour la seconde fois, cet odieux sentiment qui m'incite à répudier mon honneur, ma poivrière, tout en un mot, pour aller vers cette créature qui, je m'en rends très bien compte lorsque je ne suis pas soumis à son influence, ne possède absolument aucun charme. Mais quand je suis près d'elle, je ne raisonne plus de la même façon, et elle a le don d'éveiller en moi quelque chose de malsain, quelque chose à quoi je préférerais ne pas penser. De plus, elle réussit à paralyser ce qu'il y a de meilleur en moi, dans le même temps qu'elle y stimule ce qu'il y a de plus mauvais. Oh, décidément, sa compagnie exerce sur moi une influence néfaste. Oh, hier soir, ce fut encore pire que précédemment. Au lieu de me sauver comme je l'avais fait l'autre fois, je suis bel et bien resté pendant un certain temps encore avec elle, tandis qu'elle me tenait la main. Et nous nous sommes entretenus des questions les plus intimes. Nous avons parlé, entre autres, d'Agatha. Mais où diantre avais-je donc la tête? Mademoiselle Penellosa m'a dit qu'elle était vieux jeu et je lui ai répondu que je partageais son avis. Elle m'a parlé d'elle à une ou deux reprises sur un ton méprisant et je n'ai pas protesté. Mais de quelle abjection ai-je fait preuve, mon Dieu? Si faible que j'ai pu me montrer, il me reste cependant assez d'énergie encore pour mettre un terme à ces choses-là. Je ne veux pas que pareille scène se renouvelle à l'avenir. Et elle ne se renouvellera pas. J'ai assez de bon sens pour fuir lorsque je peux combattre. À partir d'aujourd'hui, dimanche, je ne retournerai jamais plus voir Mademoiselle Penellosa. Non, jamais. Tant pis pour les expériences, tant pis pour mes recherches, ils n'aboutiront pas. J'aimerais mieux n'importe quoi plutôt que d'affronter à nouveau la monstrueuse tentation qui me rabaisse à ce point. Je n'ai rien dit à Mademoiselle Penellosa. Je me contente simplement de m'abstenir de retourner près d'elle. Elle en devinera la raison. 7 avril. J'ai tenu ma promesse. C'est dommage d'abandonner des études aussi intéressantes, mais ce serait encore plus grand dommage de ruiner mon existence, et je sais que je ne peux pas me fier à moi-même avec cette femme. 11 heures du soir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai donc? Est-ce que je deviens fou? Voyons, tâchons d'être calmes et de raisonner un peu. Je vais commencer par rapporter exactement ce qui s'est passé. Il était près de 8 heures lorsque j'écrivis les lignes avec lesquelles je commence cette journée. Me sentant étrangement inquiet et agité, je sortis de chez moi pour aller passer la soirée avec Agatha et sa mère. Elles remarquèrent toutes deux que j'avais la figure pâle et défaite. Vers 9 heures, le professeur Pratinadan vint nous retrouver et nous fîmes un whist avec lui. Je m'efforçais tant que je le pouvais de concentrer mon attention sur les cartes, mais cette sensation d'inquiétude croissait peu à peu et elle finit par devenir si grande que je devins impuissant à lutter contre elle. C'était plus fort que moi, je ne pouvais rester assis à la table de jeu. À la fin, au beau milieu d'une partie, je jetai mes cartes, marmottai quelques vagues excuses en prétextant un rendez-vous et m'élançai hors du salon. Comme si cela s'était passé dans un rêve, je me souviens confusément d'être dégringolé 4 à 4 dans le vestibule, d'avoir arraché mon chapeau de la patère où il était accroché et d'être sorti en claquant la porte derrière moi. Comme si j'avais vu cela en rêve également, je garde l'impression d'une double rangée de réverbères s'étendant dans la nuit, et mes bottines éclaboussées de boue me font voir que j'ai dû courir en suivant le milieu de la chaussée. Tout cela fut imprécis, étrange et pas naturel. J'arrivai à la maison de Wilson, je vis Madame Wilson et je vis Mademoiselle Penelosa. Oh, je n'ai qu'un souvenir très obscur de notre conversation, mais ce que je me rappelle bien, c'est que Mademoiselle Penelosa fit mine de me menacer avec sa béquille et m'accusa d'être en retard et de n'avoir plus l'air de m'intéresser autant à nos expériences. Nous n'avons pas fait d'hypnotisme, mais je suis resté un certain temps et je viens seulement de rentrer. Mon cerveau est redevenu tout à fait lucide à présent et je suis en état de pouvoir réfléchir convenablement à ce qui s'est passé. Il serait absurde de supposer que c'est uniquement ma faiblesse et la force de l'habitude qui m'ont fait agir ainsi. J'ai essayé de me l'expliquer de cette manière-là l'autre soir, mais je m'aperçois à présent que ce n'est pas suffisant. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond et de bien plus terrible. Car enfin, lorsque j'étais en train de jouer au whist chez les Marden, j'ai été littéralement traîné au dehors, tout comme si l'on m'avait tiré par le cou avec une corde. Je ne peux plus me le dissimuler désormais. Cette femme s'est emparée de moi. Elle me tient dans ses griffes. Mais il faut que je garde tout mon sang-froid et que j'essaye de raisonner la chose afin de voir quel sera le meilleur parti à prendre. C'est égal. Faut-il que j'aie été assez aveugle et assez stupide pour me laisser entortiller pareillement? Dans mon enthousiasme à poursuivre mes recherches, je n'ai pas vu le gouffre béant qui s'ouvrait sous mes pieds, et j'y suis tombé. Mais ne m'a-t-elle pas elle-même averti? Ne m'a-t-elle pas dit, ainsi que je peux le lire dans mon propre journal, que quand elle a réussi à exercer son pouvoir sur un sujet, elle peut ensuite l'obliger à obéir à sa volonté. Or, ce pouvoir, elle est parvenue à l'exercer sur moi. Je suis actuellement sous la domination absolue de cette infirme. Je dois aller la voir quand elle me l'ordonne. Je dois faire ce qu'elle veut que je fasse. Je dois, et c'est encore là le pire de tout, je dois éprouver les sentiments qui lui plaît de me faire éprouver. Je la déteste, je la crains, et malgré cela, tant que je resterai sous le charme, elle pourra certainement me contraindre à l'aimer. Il est donc un peu consolant tout de même de penser que ces odieuses impulsions dont je me suis blâmé ne viennent en réalité pas de moi du tout. Elles émanent d'elle et rien que d'elle. Encore que j'ai été sur le moment si loin de m'en douter. Cette idée me réconcilie un peu avec moi-même et me rend le cœur plus léger. 8 avril. Oui, maintenant, en plein jour, et tandis que j'écris posément en me donnant tout le temps de réfléchir, je suis forcé de confirmer tout ce que j'ai écrit sur mon journal hier soir. La situation dans laquelle je me trouve est épouvantable, mais il importe avant tout que je ne perde pas la tête. Il faut que j'oppose à la puissance de cette femme les ressources de mon intelligence. Après tout, je ne suis pas un pantin qu'on fait danser au bout d'une ficelle. J'ai de l'énergie, de l'esprit, du courage. En dépit de ces sortilèges diaboliques, je parviendrai peut-être à venir à bout d'elle, quand même. Peut-être, mais ce n'est pas peut-être que je dois dire, c'est il faut. Sans quoi, que deviendrai-je? Essayons un peu de raisonner la chose. Cette femme, d'après ses propres explications, a la capacité d'exercer sa domination sur mon système nerveux. Elle peut implanter son esprit à la place du mien, dans mon corps, et gouverner ce corps à sa guise. Elle a une âme parasite. Oui, c'est un parasite monstrueux. Elle s'introduit dans mon âme comme le Bernard l'ermite dans la coquille du buccin. Je suis à sa merci, mais qui puis-je? Je suis en butte à des forces dont je ne connais absolument rien. Et il ne m'est pas possible de m'ouvrir à qui que ce soit de l'embarras où je me trouve. Et si jamais l'histoire venait à s'ébruiter, l'université me manquerait Certainement pas de dire qu'elle n'a que faire d'un professeur tourmenté par le diable. Et Agatha, non, 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 il faut que je tienne tête au danger tout seul. Je viens de relire les pages où j'ai noté ce que m'avait dit cette femme lorsqu'elle m'avait parlé de son pouvoir. Elle prétend que, quand l'influence est seulement légère, le sujet a conscience de ce qu'il fait, mais ne peut pas s'empêcher de l'accomplir. Tandis que quand elle est au contraire très marquée, il cesse complètement de se rendre compte de ses actes. Or, jusqu'à présent, j'ai toujours su ce que je faisais, bien qu'un peu moins nettement hier soir que la fois précédente. Par conséquent, cela semblerait indiquer qu'elle n'a pas encore usé de toute sa puissance sur moi. Mais vit-on jamais un homme placé dans une situation pareille? Au fait, si, peut-être y en a-t-il eu un, et même un qui me touche de près. Charles Sadler a dû passer par où je passe en ce moment. Ces vagues paroles d'avertissement prennent une signification à présent. Oh, si seulement je l'avais écouté alors, avant que je n'aie aidé, au moyen des séances réitérées, à forger les maillons de la chaîne avec laquelle je suis maintenant attaché. Mais j'irai le voir aujourd'hui, je lui demanderai pardon d'avoir tenu si peu de cas de ces judicieux avertissements. Je verrai s'il peut me donner un conseil. 4 heures de l'après-midi. Non, il ne peut pas me donner de conseil. J'ai causé avec lui et il a témoigné une si vive surprise au premier mot que je lui ai dit pour tâcher de lui expliquer mon abominable secret que je me suis abstenu d'aller plus loin. Autant que j'ai pu comprendre, par ce qu'il m'a laissé entendre et par ce que j'ai deviné bien plus que par ce qu'il m'a réellement dit, ce qui lui est advenu à lui-même se borne à quelques mots et à quelques regards comme ceux que j'ai eu à endurer pour mon compte. Le fait qu'il a abandonné Mademoiselle Pennellosa suffit à lui seul à me montrer qu'il n'a jamais été réellement pris dans ses filets. Ah, s'il était capable de se douter de ce qu'il a esquivé, c'est à son tempérament flegmatique de Saxon qu'il le doit. Moi, je suis brun et celte, et les griffes de cette sorcière sont profondément implantées dans mes nerfs. Parviendrai-je jamais à dénouer leur étreinte? Reviendrai-je jamais le même homme que j'étais il y a juste 15 jours? Cherchons ce que je dois faire. Quitter l'université au milieu du trimestre, il ne faut pas y songer. Si j'étais libre d'agir à mon gré, ma ligne de conduite serait toute tracée. Je n'aurais qu'à boucler mes malles, séance tenante, et m'en aller faire un voyage en Perse. Mais au reste, me permettrait-elle de partir? Et son influence ne pourrait-elle pas agir sur moi-même en Perse et me ramener malgré moi auprès d'elle? Ce n'est qu'au prix d'amères expériences que je parviendrai à circonscrire les limites de sa puissance démoniaque. Oh, je lutterai âprement de toutes mes forces jusqu'au bout. Que pourrais-je faire de plus? Je sais très bien d'avance que ce soir, vers 8 heures, ce désir de me rapprocher d'elle, cette agitation irrésistible, m'envahiront de nouveau. Comment les surmonterai-je? Que ferai-je? Il faut que je m'enlève toute possibilité de sortir de chez moi. Je fermerai la porte à double tour et je jetterai la clé par la fenêtre. Oui, mais alors, demain matin, comment m'arrangerai-je? N'importe, demain matin, j'aviserai. En attendant, il faut briser à tout prix cette chaîne qui m'entrave. 9 avril. Victoire, victoire, j'ai admirablement réussi. Hier soir, à 7 heures, je me suis dépêché de dîner. Puis je me suis enfermé dans ma chambre à coucher et j'ai laissé tomber le clé dans le jardin. J'ai choisi un roman gai et je me suis mis au lit, essayant pendant 3 heures de m'absorber dans ma lecture, mais en réalité en proie à une trépidation horrible, m'attendant à tout moment à ressentir l'impulsion mauvaise. Il n'en fut cependant rien et ce matin, je me suis éveillé avec l'impression d'être enfin débarrassé d'un atroce cauchemar. Peut-être cette créature a-t-elle eu l'intuition des dispositions que j'avais prises et compris qu'il serait inutile de chercher à m'influencer. Dans tous les cas, je l'ai battue une fois et du moment que je l'ai battue, je pourrais recommencer. Je me suis trouvé très embarrassé le matin à cause de la clé. Heureusement, il y avait en bas un aide-jardinier et je lui ai demandé de me la jeter. Il a dû penser que je venais seulement de la laisser tomber. J'aimerais mieux faire visser toutes les portes et les fenêtres et charger 6 hommes vigoureux de me maintenir sur mon lit plutôt que de me laisser mener ainsi par le bout du nez. J'ai reçu cet après-midi un petit mot de Madame Martin me priant de passer chez elle. Mon intention, n'importe comment, elle était bien d'aller la voir, mais j'étais loin de me douter qu'elle avait de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Il paraît que les Armstrong, qui doivent laisser leur fortune à Agatha, ont quitté Adélaïde pour entrer en Angleterre à bord de l'Aurora, et qu'ils ont écrit à Madame Marden et à sa fille pour les prier de venir au-devant d'eux à Londres. Elles devront s'absenter probablement pendant 1 mois ou 6 semaines. Et comme l'Aurora doit arriver mercredi, il est nécessaire qu'elles partent immédiatement. Dès demain, elles sont prêtes à temps. Ce qui me console, c'est qu'une fois qu'elles seront de retour, nous ne nous séparerons plus. Je vais vous demander de me promettre une chose, Agatha, lui dis-je lorsque nous fûmes seuls ensemble. C'est que s'il vous arrive de revoir Mademoiselle Pernellosa, soit à Londres, soit ici, vous ne lui permettrez plus jamais de vous hypnotiser. Agatha ouvrit de grands yeux étonnés. Mais comment, mais l'autre jour encore, vous me racontiez que vos expériences vous passionnaient et que vous aviez l'intention de les poursuivre le plus longtemps possible. Oui, je le sais, mais depuis j'ai changé d'avis. Et vous ne voulez plus vous en mêler? Non. Oh, que je suis contente, Austin. Vous ne vous figurez pas comme vous alliez être pâle et comme vous aviez l'air fatigué depuis quelque temps. C'est ce qui nous faisait le plus regretter d'être obligés d'aller à Londres en ce moment, car il nous en coûtait de vous laisser seul alors que vous paraissiez si abattu. Et puis, vous aviez parfois des manières d'être si étranges, surtout le soir où vous aviez si besoin. Brusquement quitté et laissant ce pauvre professeur Prattaline dans l'obligation de faire le mort. Oh, je suis convaincu que ces sortes d'expériences ont une très fâcheuse influence sur les nerfs. Oh, je le crois aussi, mon ami. Et pas seulement sur les vôtres, mais sur ceux de Mademoiselle Penelosa aussi. Vous avez su qu'elle était malade? Ah non. Oui, c'est Madame Wilson qui nous l'a appris hier soir. Elle dit que c'est une fièvre nerveuse. Le professeur Wilson doit rentrer cette semaine et naturellement, Madame Wilson tient beaucoup à voir Mademoiselle Penelosa rétablie avant son retour, car il rapporte avec lui tout un programme d'expériences qu'il désire mettre à exécution au plus tôt. Je suis content d'avoir obtenu la promesse d'Agatha, car c'est bien assez de l'un de nous deux au pouvoir de cette femme. Mais d'un autre côté, la nouvelle de la maladie de Mademoiselle Penelosa me cause un certain malaise. Cela tend plutôt à atténuer ma victoire d'hier soir. Je me rappelle en effet lui avoir entendu dire que, quand sa santé devenait moins bonne, son influence s'amoindrissait. C'est peut-être pour cela que j'ai pu lui résister si facilement. Quoi qu'il en soit, je reprendrai les mêmes précautions ce soir et nous verrons bien ce qu'il en adviendra. J'en arrive à avoir peur comme un enfant dès que je pense à elle. 10 avril. Tout s'est passé à merveille hier soir. J'ai eu bien envie de rire en revoyant la figure du jardinier lorsque j'étais obligé de lui redemander ma clé comme hier. Si cela continue, je finirai par passer pour un original aux yeux des domestiques. Mais le point capital, c'est que je suis resté dans ma chambre sans éprouver la moindre envie d'en sortir. Je crois vraiment que je suis en train de m'affranchir de ce joug effroyable. À moins que cela ne prouve simplement que la puissance de cette femme demeurera en suspens tant qu'elle n'aura pas recouvré ses forces. Je ne peux que formuler un souhait, c'est que tout aille pour le mieux. Les Marden sont partis ce matin, il me semble que le soleil printanier a perdu tout son éclat. Et pourtant, il est bien beau tout de même à voir sur les marronniers verts qui sont en face de mes fenêtres. Et ces rayons mettent un peu de gaieté sur les murs tout chargés de lichens des vieux collèges. Que la nature est donc douce, aimable et apaisante. Qui donc supposerait jamais qu'il sommeille en elle des forces si méprisables, des possibilités si odieuses? Car, cela va sans dire, je me rends très bien compte que cette chose effroyable dont je suis victime n'est ni surnaturelle, ni même contre nature. Non, c'est assurément une force naturelle qui est encore presque inconnue, mais dont cette femme sait se servir. Le seul fait que cette force subit les fluctuations de ses forces à elle prouve subabondamment qu'elle est soumise d'une façon absolue aux lois physiques. Si j'en avais le temps, je pourrais étudier la chose à fond et peut-être découvrir son antidote, mais ce n'est plus le moment de chercher à apprivoiser le tigre quand il vous tient dans ses griffes. Le seul expédient qui vous reste est de tâcher de se soustraire à ses coups. Ah, quand je me regarde dans la glace et que je vois mes yeux sombres et ma physionomie espagnole ou très accentuée, je me prends à souhaiter que quelqu'un me les arrose de vitriol ou qu'une attaque de petites véroles les vienne ravager. L'un ou l'autre de ces malheurs m'épargnerait la calamité que je subis. Je penche à croire que tout n'ira pas si bien ce soir. Deux choses en effet me le font craindre. La première, c'est que j'ai rencontré dans la rue Madame Wilson et qu'elle m'a dit que, quoique faible encore, Mademoiselle Penelosa était cependant déjà mieux. Je me surprends à souhaiter en moi-même que cette maladie dont elle est atteinte soit sa dernière. Et la seconde, c'est que le professeur Wilson va revenir dans un jour ou deux et que sa présence la forcera certainement à se contraindre. Pour ces deux raisons-là, j'ai le pressentiment que j'aurai de l'ennui ce soir et j'aurai soin de prendre les mêmes précautions que ces jours-ci.
10 avril. Mon Dieu merci, tout s'est encore bien passé hier soir. Je ne pouvais vraiment pas faire appel plus longtemps au jardinier, cela serait fini par devenir ridicule. Après avoir fermé la porte, j'ai donc poussé la clé en dessous. Ce qui m'a obligé ce matin à demander à la servante de me délivrer. Mais en réalité, la précaution que j'avais prise n'était pas nécessaire, car je n'ai jamais eu un seul instant le désir de m'échapper. 3 soirs de suite chez moi. Oh, je touche certainement la fin de mes peines, car Wilson sera de nouveau demain, si ce n'est de retour aujourd'hui. Lui dirais-je ou non ce qui m'est arrivé? Je suis convaincu qu'il ne me témoignerait pas la moindre marque de sympathie. Il verrait seulement en moi un cas intéressant et lirait un mémoire à mon sujet à la prochaine réunion de la Société des recherches psychiques, mémoire dans lequel il envisagerait gravement la question de savoir si je n'ai pas menti de propos délibérés ou si au contraire je ne me suis pas déjà dans les premiers stages de la folie. Non, assurément, ce n'est pas de la part de Wilson que je dois attendre des paroles réconfortantes. Je me sens si bien portant et si dispos que je m'étonne moi-même. Je n'ai jamais fait mon cours avec autant d'entrain. Ah, si seulement je pouvais me débarrasser de cette ombre qui obscurcit mon existence, comme je serais donc heureux. Jeune, assez bien renté, bien en vue dans ma profession, fiancé à une jeune fille aussi belle que charmante, n'ai-je pas entre les mains tout ce qu'un homme peut désirer? Mais une chose, une seule me tracasse, mais quelle chose! Mais j'en deviendrai fou. Oui, c'est ainsi que cela se terminera. Je deviendrai fou. Mais c'est tout juste si je ne suis pas en train de le devenir en ce moment même. ma pauvre tête qui s'appuie sur ma main fiévreuse et pleine de bruits étranges. Je frissonne de tous mes membres comme un cheval ombrageux. Oh, quelle nuit j'ai passée! Et pourtant, j'ai lieu aussi d'être satisfait jusqu'à un certain point. Au risque de devenir la fable des domestiques, j'ai glissé cette fois encore ma clé sous la porte, afin de m'emprisonner pour la nuit. Puis, trouvant qu'il était encore trop tôt pour me coucher, je me suis étendu, tout habillé sur mon lit, et j'ai commencé la lecture d'un roman de Dumas. Et tout à coup, je fus empoigné, oui, empoigné et traîné à bas de mon lit, il n'y a pas d'autre mot pour donner une idée du caractère irrésistible de la force qui s'est abattue sur moi. Je me suis agriffé aux couvertures, je me suis cramponné aux boiseries. Je crois même, tant mon émoi était grand, que j'ai laissé échapper des cris ou tout au moins des plaintes. Tout cela était inutile, désespérément inutile. Il me fallait partir coûte que coûte. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce n'est qu'au début seulement que je cherchais à résister. Et bientôt après, la force qui m'attirait était devenue tellement puissante que je n'étais plus en état de m'y opposer. C'est un bonheur que personne ne se soit trouvé là pour me surveiller et me barrer la route, sans quoi je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et, chose curieuse, en même temps que la résolution de sortir à tout prix s'emparait de moi, je me sentais une perspicacité remarquable pour trouver les moyens d'y parvenir. Ayant allumé une bougie, je m'efforçais, en m'agenouillant devant la porte, de ramener la clé à l'intérieur en l'attirant vers moi à l'aide des barbes d'une plume d'oie. La plume était un tant soit peu trop courte, et je ne réussis qu'à repousser la clé encore davantage. Mais je ne me décourageais pas pour cela, et avec le plus grand calme et la plus grande ténacité, j'allais chercher dans un tiroir un long coupe-papier, grâce auquel je parvins enfin à ravoir ma clé. Alors j'ouvris la porte, je passai dans mon cabinet, j'y pris une photographie de moi qui se trouvait sur mon bureau et que je glissais dans ma poche après y avoir écrit quelques mots en travers, et je me suis mis en route. Oh, je me rendais parfaitement compte de ce que je faisais, mais tous les actes que j'accomplissais me semblaient indépendants du reste de ma vie, comme le pourraient être les divers épisodes d'un rêve, si distinct fut-il. J'étais doué d'une conscience spéciale et comme dédoublée. Il y avait d'une part la volonté étrangère et prépondérante qui cherchait à m'attirer vers celle à qui elle appartenait, et d'autre part la personnalité mollement rebelle en laquelle je reconnaissais mon moi qui cherchait vainement à s'affranchir de l'impulsion implacable à laquelle elle était en lutte, à la manière d'un terrier en laisse qui tire sur sa chaîne. Je me rappelle avoir établi une distinction entre ces deux forces contradictoires, mais je n'ai gardé aucun souvenir de mon passage à travers les rues, ni de la manière dont je fus admis dans la maison. Par contre, ce qui m'a laissé une impression très nette, c'est la façon dont me reçut Mademoiselle Penelosa. Elle était renversée sur le canapé, dans le petit boudoir où avaient ordinairement lieu nos expériences, la tête appuyée sur l'une de ses mains et une sorte de couverture en peau de tigre ramenée sur elle. Lorsque j'entrai, elle releva la tête d'un air plein d'expectative et, comme la lumière de la lampe éclairait son visage, je remarquai qu'elle était très amaigrie, très pâle et qu'elle avait les yeux creux et profondément cernés. Elle me sourit et m'indiqua un tabouret à côté d'elle. Ce fut de la main gauche qu'elle me l'indiqua, et moi, m'avançant avec empressement, je la pris entre les miennes. Oh, je me fais horreur quand j'y songe, et la pressai passionnément contre mes lèvres. Ensuite, m'asseyant sur le tabouret et conservant toujours sa main dans les miennes, je lui donnai la photographie que j'avais apportée en venant, et me mis à lui parler intarissiblement de mon amour pour elle, de mon chagrin, en apprenant qu'elle avait été malade, de ma joie de l'avoir rétablie, du tourment que c'était pour moi à chaque fois qu'il me fallait passer une soirée sans la voir. Elle se tenait toujours paisiblement renversée en arrière, me regardant de haut avec ses yeux autoritaires et me souriant de son sourire engageant. Une fois, il m'en souvient, elle me passa la main sur les cheveux comme on caresse un chien. Et cette caresse me procura une sensation de plaisir. Je me suis senti frémir au contact de sa main. Oh, je lui appartenais corps et âme, et pour l'instant, je me réjouissais de cet esclavage. Et c'est alors que se produisit un bienheureux changement. Oh, qu'on ne vienne jamais me dire après cela que la Providence n'existe pas. J'étais au seuil de la perdition. Mes pieds touchaient le bord de l'abîme. Fût-ce une simple coïncidence si à cet instant même je vis le secours m'arriver? Non, 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 et non, il y a une Providence et c'est sa main qui m'a empêché de tomber. Il existe de par l'univers quelque chose de plus fort que cette femme diabolique et que tous ses maléfices. Ah, qu'il m'est doux de le penser. Tandis que je relevais les yeux pour la regarder, j'eus conscience qu'un changement s'opérait en elle. Sa figure, déjà pâle auparavant, était à présent livide. Ses yeux avaient perdu leur éclat et ses paupières retombaient lourdement. Mais surtout, l'air de sereine confiance dont ses traits avaient été jusqu'alors empreints avait disparu. Son front était barré de rides soucieuses. Elle était indécise et effrayée. Et pendant que je suivais les phases de cette métamorphose, mon esprit à moi oscillait, luttait, faisant tous ses efforts pour s'arracher à l'étreinte qui le retenait, étreinte qui, d'instant en instant, se relâchait davantage. « Austin, murmura-t-elle, j'ai voulu en trop faire. Je n'en ai pas eu la force. Je ne suis pas encore complètement remise de ma maladie. Mais je ne pourrai vivre plus longtemps sans vous voir. Vous ne me quitterez pas, dit Austin. Ce n'est qu'une défaillance passagère. Si vous voulez seulement m'accorder 5 minutes, je vais me ressaisir. Donnez-moi le carafon qui est sur la petite table vers la fenêtre. » Mais déjà, j'avais repris possession de moi-même. À mesure que ses forces s'en allaient, son influence avait diminué et elle avait fini par me laisser libre. Et j'étais maintenant agressif, assurément farouchement agressif. Pour une fois du moins, je pourrais faire comprendre à cette femme quels étaient les véritables sentiments que j'éprouvais à son égard. Mon âme était remplie d'une haine aussi bestiale que l'amour qu'elle m'avait inspiré malgré moi. C'était la réaction qui s'opérait, la colère sauvage et meurtrière du cerf révolté. Je me tenais à 4 pour ne pas employer sa béquille et m'en servir pour l'assommer. Elle leva ses mains au-dessus de sa tête comme pour se préserver d'un coup, et se recula dans le coin du canapé en s'éloignant de moi le plus possible. « Le cognac !» suffoqua-t-elle, « le cognac !» Je saisis le carafon et j'en renversai le contenu sur les racines du palmier qui était devant la fenêtre. Je lui arrachai ma photographie des mains et je la déchirai en 1000 morceaux. « Misérable !» lui criai-je, « mais si j'accomplissais mon devoir envers la société, vous ne sortiriez jamais d'ici vivante. »« Je vous aime, Austin, » larmoya-t-elle. « Oui, » m'exclamai-je, « et vous avez aimé aussi Charles Salzer avant moi, et combien d'autres encore avant lui ?»«
Charles Salzer ?» bégaya-t-elle. « Il vous a donc parlé ? Vraiment Charles Salzer ?»
Sa voix sortait de ses lèvres blêmes comme le sifflement d'un serpent.
« Oui, oui, je vous connais, et les autres apprendront à vous connaître à leur tour. Abjecte créature que vous êtes, vous n'ignoriez pas dans quelle situation je me trouvais.
Et malgré cela, vous avez eu recours à votre abominable pouvoir pour m'attirer à vos côtés. Peut-être recommencerez-vous encore, mais au moins, vous pourrez vous rappeler m'avoir entendu dire que j'aime de tout mon cœur Mademoiselle Marden, et que je vous déteste et vous hais. Rien que de vous voir et d'entendre le son de votre voix, cela me remplit d'horreur et de dégoût. Le seul fait de penser à vous m'inspire de la répugnance. Voilà quel sentiment j'éprouve à votre égard, et s'il vous plaît de m'attirer vers vous de nouveau comme vous l'avez fait ce soir, vous n'aurez en tout cas qu'une bien pauvre satisfaction, je pense, à vouloir faire un amoureux de celui qui vous a déclaré tout net ce qu'il pensait de vous en réalité. Vous pourrez me mettre les paroles que vous voudrez dans la bouche, mais vous ne pourrez pas faire autrement que de vous souvenir. Je m'arrêtais, car elle avait renversé la tête en arrière et perdu connaissance. Elle ne pouvait supporter d'entendre ce que j'avais à lui dire. Quelle satisfaction pour moi de penser que, quoi qu'il arrive plus tard, elle ne pourra jamais plus se méprendre sur mes véritables sentiments à son endroit. Mais qu'adviendra-t-il dans l'avenir? Que va-t-elle faire dorénavant? Je n'ose y penser. Oh, si seulement elle pouvait me laisser tranquille. Mais quand je songe à ce que je lui ai dit, n'importe, j'aurais toujours été le plus fort pour une fois. 11 avril. J'ai à peine dormi cette nuit et je me suis senti si fatigué, si fiévreux ce matin, que j'étais obligé de prier Prathalden de faire mon cours à ma place. C'est la première fois que pareille chose m'arrive. Je me suis levé à midi, mais j'ai mal à la tête, mes mains tremblent, mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai eu ce soir une visite à laquelle je ne m'attendais guère, celle de Wilson. Il revient de Londres où il a donné des conférences, lu des mémoires, organisé des réunions, démasquer un médium, diriger une série d'expériences sur la transmission de la pensée, reçu le professeur Richet de Paris, passé des heures à regarder dans une boule de cristal, et formé quelques conclusions sur le passage de la matière à travers la matière. Tout cela, il me l'a débité d'un seul jet. « Mais vous, s'écria-t-il enfin, vous n'avez pas l'air en train. » Et Mademoiselle Penelosa est tout abattue aujourd'hui. Où sont vos expériences? Bon, je les ai abandonnées. Allons donc, et pourquoi? Parce que le sujet m'en paraissait dangereux. Il tira aussitôt de sa poche un gros carnet brun. Ah, voilà qui est très intéressant, dit-il. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que vous le trouvez dangereux? Ayez l'obligeance de m'exposer les faits dans leur ordre chronologique, avec les dates approximatives et les noms des témoins dignes de foi avec leur adresse. Tout d'abord, lui demandai-je, veuillez me dire si vous avez enregistré des cas où l'hypnotiseur acquérait une influence prépondérante sur son sujet et s'en servait dans de mauvais desseins. Mauve par douzaine, s'écria-t-il exultant, le crime par suggestion. Non, ce n'est pas de la suggestion que je veux parler. J'entends une impulsion soudaine émanant d'une personne éloignée, une impulsion irrésistible. Oh, l'obsession alors, s'exclama-t-il dans un transport de ravissement. Oh, c'est l'état le plus rare. Nous en avons 8 cas, dont 5 bien attestés. Est-ce que par hasard? Non, 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 répondis-je. Allez, bonsoir, vous m'excuserez, mais je ne me sens pas très bien ce soir. C'est ainsi que je me débarrassais enfin de lui, tandis qu'il brandissait encore son crayon. Mes tourments sont pénibles à endurer, mais j'aime encore mieux les garder pour moi seul que de donner à Wilson l'envie de m'exhiber comme une bête curieuse dans une fête. Il ne voit plus chez les autres des êtres humains. Tout pour lui représente un cas ou un phénomène. Oh, plutôt mourir que de lui reparler jamais de cette question-là.
12 avril. Hier a été une journée de tranquillité bénie et j'ai eu le bonheur de passer une nuit sans inquiétude. La présence de Wilson est une grande sécurité pour moi. Que peut me faire cette femme désormais? Assurément, lorsqu'elle m'a entendu lui dire ce que j'avais à lui dire, elle a dû éprouver pour moi autant de répulsion que j'en éprouvais pour elle. Il ne se peut pas, non, certes, il ne se peut pas qu'elle veuille se faire un amoureux d'un homme qui l'a insulté. Non, je crois que je n'ai plus rien à craindre de son amour, mais en pourrais-je dire autant de sa haine? Ne serait-elle pas capable d'user du pouvoir qu'elle possède pour se venger de l'affront que je lui ai fait? Bah, à quoi bon m'épouvanter avec des ombres? Elle ne pensera plus à moi, je ne penserai plus à elle et tout sera dit. 13 avril. Ma nervosité est tout à fait passée. Je crois vraiment que j'ai vaincu une fois pour toutes cette créature maudite, mais je dois avouer que je vis constamment dans l'attente. Elle doit être bien rétablie à présent, car j'ai entendu dire qu'on l'avait vue passer en voiture avec M. Wilson dans la grande rue.